Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une histoire de fou qui ne pourrait se passer qu'au XXIe siècle. Elle met en scène un influenceur pro-euthanasie sur TikTok, ses haters, comme on dit, de ceux qui le haïssent, et une cagnotte en ligne. Le héros, et surtout la victime, c'est un homme qui s'appelle Giovanni et vit à Beaupréau en Mauges, au sud du Maine-et-Loire. Atteint de maladies neurodégénératives, lorsqu'il arrive à l'âge de 33 ans, il décide de recourir au suicide assisté et bâtit un projet d'euthanasie en Belgique. Très populaire sur TikTok, où il communique depuis longtemps sur sa maladie et où il est suivi par une large communauté, il lance alors une cagnotte pour financer ses frais et surtout ne pas laisser de dette à sa fille après sa mort. Sauf que sa maladie connaît ensuite une amélioration, qu'il découvre un possible traitement en Thaïlande et finalement renonce à mourir. Il est alors harcelé de toutes parts, accusé d'être un escroc qui utilise sa maladie et sa mort programmée pour remplir son compte en banque. Ce qu'il n'est évidemment pas, comme vous allez l'entendre tout de suite dans Les Pieds sur Terre, avec cette histoire compliquée et complexe qui entremêle argent, gloire éphémère et maladie sur fond de détresse respiratoire. Un récit de Maxime Pionneau.
Moi, c'est Giovanni Di Franco, donc j'ai 35 ans maintenant. Je suis ancien donc responsable de magasin pour l'enseigne Lidl. J'ai travaillé donc d'abord dans le nord de la France, et puis j'ai eu une opportunité d'embauche dans le pays de la Loire pour prendre le poste de responsable magasin à Valette. Et donc j'ai sauté sur l'occasion, je suis parti le samedi pour commencer le lundi. Donc j'ai fait connaissance avec ma nouvelle équipe, c'était super, on a passé des bons moments, j'ai passé 2 ans et demi avec eux. L'objectif c'était de redresser le magasin. Et puis le 6 mars 2020, donc je me rappelle toujours, j'étais en train de rentrer mes commandes dans le rayon frais. J'ai commencé à avoir un tremblement au niveau de ma jambe, donc sur le coup, j'ai pas prêté attention, on sortait d'une semaine qui était plutôt fatigante, une période assez compliquée. Donc quelques minutes après, je sentais des brûlures sur mes deux jambes, mais des espèces de picotements. Je suis parti m'asseoir un petit peu, je me suis dit, il faut que je me ménage, peut-être la fatigue, on verra en rentrant, etc. Et puis, c'est passé. Deux jours après, de nouveau, ça a recommencé. Mais là, j'ai ma cheville droite qui a tourné, alors toujours au travail. Donc, je me suis allé voir la pharmacie, j'explique un petit peu. Ils m'ont conseillé de faire une cure de magnésium. Donc, j'ai fait une cure de magnésium pendant 3 semaines. Et un mois après, la première nuit, je me rappellerai toujours, je me suis réveillé aux alentours de 3h du matin. J'avais les deux jambes qui me brûlaient totalement. Et il fallait absolument que je me lève et que je bouge. Je pouvais pas rester immobile. Donc j'étais là à 3h30, 4h du matin en train de marcher dans ma maison. Ça me faisait du bien, mais voilà, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et puis j'ai fini quand même par prendre rendez-vous chez le médecin. Donc il m'a ausculté, il m'a parlé du syndrome des jambes sans repos. Donc j'ai eu un traitement pendant un mois et les symptômes ne passaient pas. Au contraire, ça s'accentuait. Donc j'ai continué à travailler jusqu'au jour où j'ai fait ma première chute en réserve au travail. Voilà, j'avais le livreur qui était là, je réceptionnais une commande, et puis en reculant comme ça, je suis tombé. Donc j'ai pas trop compris ce qui se passait, je me suis pas senti tomber. Donc les équipes sont venues me chercher, ils m'ont mis en salle de repos, ils m'ont dit de m'asseoir, et puis ils ont pas accepté que je continue. Ils m'ont dit là, il faut que tu t'arrêtes. Je suis allé voir le médecin, il m'a examiné et puis il m'a passé des espèces de tests au niveau des pieds, de la voûte plantaire. Et là, je le vois un peu froncer les sourcils. Et il me dit, là, il va falloir aller aux urgences. Donc me voilà retrouvé au CHU de Nantes. Et puis je suis resté une bonne journée, ils m'ont passé des examens. IRM, scanner, prise de sang, enfin vraiment la totale. Et puis arrivé à 23h, j'ai un professeur en neurologie qui vient me voir et qui me dit, bah monsieur, on a trouvé une masse au niveau du cerveau, mais on ne sait pas trop l'interpréter, on ne sait pas ce que c'est. On aimerait approfondir les examens, on vous demandera de rester. Bah ça va pas être possible parce que le lendemain je commence à 6h. Donc je lui dis, mais on peut pas remettre ça à un jour où je serai disponible, éventuellement je prends des congés. Mais monsieur, en fait, vous n'avez pas l'air de comprendre. Là, ça peut être potentiellement important. On vous demande vraiment d'approfondir les examens, de rester. Donc là, bah, je me suis pris une petite claque quand même parce que j'ai vu qu'il était sérieux et moi, je suis toujours dans la rigolade un petit peu. Et puis au final, bah, ce qui a duré pour quelques jours d'examen a duré l'équivalent de 8 mois d'hospitalisation où dès les premières semaines, ça a été une dégradation quasiment instantanée. J'avais la paralysie du visage, j'avais perdu la vessie, j'avais l'osselet interne de l'oreille gauche où j'entendais plus. Et arrivé au quatrième mois, je passe un examen des poumons, et là on dit bah il y a la couronne supérieure du diaphragme qui est paralysée aussi. Donc c'était beaucoup trop d'un coup. Et mon neuro vient tout confiant, il me dit bon bah voilà, on va entamer une cure d'immunoglobuline, normalement ça va bien se passer, on a des bons résultats. Et juste avant de partir, il me dit au niveau des effets secondaires, il y a un cas sur un million, je sais pas, enfin un truc comme ça, il me dit de déclencher une méningite. On a fait cette cure, et puis dans la nuit, 2-3 heures du matin, je commence à avoir un mal de tête vraiment atroce, une douleur à la nuque. J'étais en train de déclencher effectivement une méningite aseptique, donc c'est un coup de pas de bol. Donc le truc qui pouvait me soigner, en fait je ne pouvais plus le faire tout simplement. Donc là le neuro revient me voir le lendemain, un petit peu embêté, et puis il me dit on va passer à autre chose, on va faire les échanges plasmatiques. On filtre le sang avec de l'albumine. C'est quelque chose qui est assez lourd. On est branché des deux côtés. On a des poches qui viennent filtrer dans le sang, qui passent dans une machine qui fait un bruit juste énorme. Et bah, l'objectif, c'est de ne pas bouger pendant plusieurs heures, le temps que la filtration se fasse. J'ai eu ça pendant plusieurs mois, trois fois par semaine. Donc c'était, je crois, la période la plus fatigante où j'avais perdu le plus de poids. J'étais arrivé à 49 kilos. C'était vraiment une période très très dure. Au bout de 9 mois, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que le dernier service que j'ai fait, c'est les soins intensifs. J'ai le neurologue qui vient me voir avec un professeur en soins palliatifs qui me dit qu'en fait on a fait le tour de tous les protocoles qui pouvaient exister, y compris son fameux, ce qu'il appelait le protocole bazooka. L'idée était de faire un reset complet des anticorps. On était à 11 protocoles et le professeur qui était en soins palliatifs était là pour me proposer le cannabis thérapeutique dans le but d'épargner les douleurs et vraiment de... J'avais bien compris, c'était un accompagnement des symptômes, en fait. Essayer que j'ai le moins de douleurs possible, et voilà. Et psychologiquement, c'est un gros bordel, parce qu'il y avait d'un côté la maladie, une errance médicale, une incertitude. D'un autre côté, c'était en pleine période où ma fille allait naître. Dans ma tête, je me dis, dans un premier temps, t'as pas le choix que d'avancer, en fait, parce que voilà, je pouvais pas l'abandonner et ne serait-ce que m'imaginer de ne pas l'avoir. C'était quelque part un combat interne entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que on a plus de force, on fait plus que 40 kilos, on n'arrive plus à manger, on n'arrive même plus à articuler, on n'arrive pas à ouvrir les yeux, on est dans un état un peu végétatif. Et forcément, la maladie a rendu les choses très difficiles avec la mère de ma fille. Donc j'étais là totalement isolé et juste avec une seule idée en tête, c'est tenir le maximum de temps pour pouvoir voir son enfant. Juste la voir. J'ai pu assister à l'accouchement. Bah là, c'est un déchaînement dans le corps. Si on se dit, mais ce petit bout-là, je peux pas baisser les bras, je peux pas, c'est pas possible. Donc, il y a une motivation. Alors aujourd'hui, j'ai donc la maladie de Morvan, une atteinte centrale, un syndrome qui est Lysak-Mertens, une atteinte périphérique, et le SPS, le Stiff Person Syndrome, qui est connu sous le nom de la maladie de l'homme raide. Et y a personne qui a ma maladie aujourd'hui. Alors on m'a mis sur les réseaux, c'est-à-dire que l'idée première, c'était de trouver moi-même des personnes qui peut-être avaient les mêmes symptômes, les mêmes ressentis, mais pas forcément un diagnostic posé. Parce que moi, j'ai passé quasiment 9 mois où le diagnostic a eu du mal à être posé et je me dis que c'est peut-être pas des cas qui ont été diagnostiqués. Donc peut-être que en parlant de ma maladie, les personnes vont se dire, bah tiens, j'ai dans mon entourage une personne qui a exactement les mêmes symptômes, qui a suivi le même parcours et qu'on puisse échanger. À la base, c'était vraiment ça l'objectif principal des réseaux. Donc on m'a plus orienté vers ce qu'on appelle des lives. L'idée, c'était vraiment de pouvoir expliquer en direct ce qui se passait à travers donc des lives, que ce soit Instagram ou TikTok. Et donc, on vient sur les réseaux pour expliquer sa maladie. C'est-à-dire que je raconte ma vie, je raconte ma journée. Et puis, tout compte fait, je sors 2-3 blagues, on rigole. Si je devais m'arrêter parce que j'avais envie d'aller aux toilettes, je m'arrêtais parce que j'allais aux toilettes. Et puis, je mettais en pause et puis je disais, bougez pas, j'arrive. Ça prenait le temps que ça prenait quand je tombais pas. Parce que il y a eu des moments genre, c'est vrai, atypique où on est tellement dans l'euphorie que ça m'est arrivé des fois de me lever puis de chuter complètement. Alors, je me relevais, je passais la tête à la caméra, quoi. Ça, je fais, tout va bien, ça va, ça va. Enfin, c'était incroyable parce qu'il y avait, la maladie, mais il y avait cet aspect fun, il était partagé par des milliers de personnes. C'est-à-dire que je pouvais avoir jusqu'à 7000, 8000 personnes qui venaient regarder mes lives. Et je me dis, potentiellement, s'il y a seulement 20% qui rigolent, j'ai gagné ma journée, je suis content. C'est que j'en ai fait sourire plein. Et je serai encore plus content si ces personnes, c'est des personnes qui sont isolées, qui sont en galère, qui sont comme moi, qui veulent pas aller dans les espaces qu'on nous a créés entre malades pour parler sans arrêt de notre maladie. Et puis, est-ce dans une quelque part une négativité? Ces personnes-là, elles sont dans leur fauteuil, dans leur lit, dans leur, elles sont allongées, assis, et puis elles passent juste un bon moment, elles sourient, elles rigolent, et ça, c'est incroyable. Et quand j'ai reçu les premiers messages où on m'a dit, mais tu sais, en fait, moi, je suis malade, et j'ai arrêté ma télé, et maintenant, je passe tous les soirs à t'écouter, et j'attends que t'arrives, parce que ça me fait du bien. Quand on entend ça, on se dit, on apporte quelque chose d'incroyable aux gens et on a juste envie de continuer. Ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, j'étais dans une situation personnelle très difficile. J'étais en invalidité. J'avais mon ex-conjointe qui était partie du jour au lendemain. Je me suis retrouvé sans rien, avec des crédits de maison, des crédits de voiture. Donc c'était les secours catholiques, c'était les bons alimentaires, c'était des avoirs que je devais faire à la pharmacie pour payer certains de mes traitements que je pouvais même pas payer, comme la cryothérapie, les bandages de bloc opératoire. Tout ça, c'est pas pris en charge. L'eau oxygénée, c'est pas pris en charge. Ça montait jusqu'à 800 euros par mois, que je ne pouvais pas assumer. Je devais économiser mes bandelettes de bloc opératoire qui était à usage unique, je les faisais sécher parce que tout simplement j'en avais plus. Et alors on me disait oui, mais il y a des risques infectieux. Je fais ouais, mais je fais comment? J'ai pas le choix, c'est à ma charge. Je me suis retrouvé avec ne plus pouvoir payer mon électricité alors que j'ai des machines qui sont assez gourmandes. Donc j'ai expliqué aussi à ma communauté la situation. Là, j'étais franc, j'ai expliqué les difficultés liées à tout ça. Il y a eu un élan de solidarité pour m'aider à faire face à toutes ces difficultés pour me soigner. Il y avait des dons que j'avais, que je recevais naturellement. Il y a eu une proposition, on m'a dit, mais pourquoi tu n'ouvres pas une cagnotte, etc. J'ai dit, parce que voilà, j'y ai pas pensé, tout simplement, je sais pas trop comment ça fonctionne, tout ça. Et puis on m'a donné des pistes, et puis ça s'est fait. Moi, je voulais vraiment que ce soit totalement transparent. C'est pour ça que j'ai fait appel à la cagnotte des proches. C'est une cagnotte qui est plus généralement utilisée pour l'aspect médical où l'argent ne transite pas sur le compte. Par exemple, j'ai utilisé une fois un montant de 200 euros pour régler la pharmacie. C'est la cagnotte des proches qui a réglé la pharmacie. C'est pas venu sur mon compte et ensuite, voilà. Moi, je voulais que ça se passe comme ça. Et puis, je voulais aussi que chaque donateur sache où part leur argent. On a beau rentrer de ses soins, déconnecter, poser son sac. Voilà, j'ai fini ma journée de soins, je suis complètement crevé, mais il me faut une source d'oxygène. Alors je prends mon sac à douleur, je le pose et je me connecte. Et ma communauté va me rebooster. Alors il y a le devant où forcément on rigole, on sourit, mais il y a des moments où on doit sortir de l'écran parce que il faut prendre un médicament pour se contrôler, parce que je suis en train de convulser à cause d'une crise neurologique. Entre les muscles, entre les nerfs, entre les crampes, entre les douleurs des mollets, etc., c'est invivable. On ne veut pas montrer ça. Et cette souffrance, elle est présente 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'au moment où je quitte mon écran, c'est un calvaire de chaque seconde. Et quand on passe des nuits à ne pas dormir, ben, humainement, on ne tient pas le coup. Mes neurologues m'ont toujours dit, voilà, c'est une maladie qui évolue de façon anarchique. Et je l'ai vu par rapport à mes nombreuses crises, je peux être bien et puis une heure après déclencher une crise neurologique, sans qu'il y ait de raison. Et l'idée de l'euthanasie, ça a toujours été, dans le cas où j'ai plus le contrôle de ma maladie, je refuse qu'elle prenne le dessus sur moi. Je me voyais pas continuer comme ça longtemps. Donc il fallait forcément quelque chose qui puisse me dire que, dans le cas où j'en peux vraiment plus, où je suis vraiment au bout, je peux appuyer sur un bouton pour enlever tout ce stress, toute cette douleur et ne plus souffrir. Moi, je le voyais comme un bouton magique. C'est un bouton qui me permettra enfin de plus passer mes nuits à pleurer, mes nuits à crier. C'est clairement un bouton de sortie de cette souffrance pour partir en toute dignité. Moi, j'ai ma démarche qui est prête d'euthanasie. J'ai cette porte de secours qui est créée, où je suis allé jusqu'au bout des choses, où j'ai eu mes entretiens, où je suis allé sur place, où j'ai rencontré un médecin belge. Je lui ai clairement dit que les douleurs étaient insupportables, que c'était très compliqué pour moi de continuer à vivre avec ces douleurs et que si on ne pouvait pas répondre positivement à ma demande, alors j'avais plus d'autre choix que de me libérer de mes souffrances. À côté de ça, j'avais fait mes recherches et j'avais vu une possibilité d'opération qui refusait de faire en France parce que on peut évaluer les risques, mais on peut pas évaluer les bénéfices. Étant donné qu'on peut pas évaluer les bénéfices de l'opération, on prendra pas le risque. Voilà ce que j'ai entendu à chaque fois. J'avais partagé tous les aspects possibles de ma vie avec ma communauté. Donc j'annonce à ma communauté ma décision sur l'euthanasie, mais qu'à côté de ça, j'ai un projet de la dernière chance. Je leur explique que c'est un projet qui n'est pas possible en France parce que on refuse tout simplement de m'opérer. Et donc j'aurais peut-être possibilité de subir cette opération à l'étranger. Donc je leur explique. Donc j'avais déjà fait une approche avec un neurochirurgien à Bangkok. Il souhaitait me voir physiquement pour confirmer le diagnostic dans un premier temps, et ensuite me donner les possibilités. Mais ça coûte de l'argent, alors au début, je recevais des dons, parce que les gens souhaitaient m'apporter une contribution sur TikTok, voilà, c'est des cadeaux qu'on peut convertir en argent, etc. Cet argent-là, ça m'a permis de pouvoir faire mon voyage en Thaïlande. La moindre des choses, c'était de filmer tout ce qui se passait, en toute transparence. Pendant mes rendez-vous, ils ont pu me suivre pendant mes temps de pause, quand ils m'ont transféré à l'hôpital, tout ça. Et donc l'opération, c'est la pose d'une pompe avec un produit qui est diffusé dans la moelle épinière et qui permet d'enlever la rigidité des membres et du coup les douleurs. Ce qui m'a toujours poussé à l'euthanasie, c'est la douleur. c'est de me dire, c'est pas la maladie qui va me tuer, c'est la douleur. Bon, forcément, j'ai pas pu sortir ma carte vitale, ni ma carte de mutuelle. Ça, forcément, bah, je m'y attendais un petit peu, mais pas à ce point-là quand même. Il y en avait pour 30 à 35 000 euros. Je lui ai clairement dit que bah, là, pour l'instant, c'était pas possible. Alors, ça a été un moment très compliqué parce que il y avait les réseaux, il y avait les explications aussi à donner à sa communauté. Il y a toujours des haters, donc des personnes qu'on gêne par notre notoriété. Et on a remis en doute ma pathologie, on a remis en doute mes comptes rendus neurologiques, on a remis en doute tout. Donc je devais me justifier sans arrêt. On me dit que c'est pas la bonne pathologie. Je monte mes comptes rendus en live de ma pathologie. On me dit il a de l'oxygène, mais en fait c'est juste pour le cinéma. Je prends ma caméra, je monte mon système, toutes mes machines homologuées avec Asten Santé, etc. Voilà. Plus je justifiais, plus on cherchait à me nuire, on cherchait à contre-argumenter. Enfin, c'était un jeu sans fin et on m'a reproché de voler ma communauté, de les escroquer. Alors que je justifiais la moindre facture, je justifiais la moindre dépense, etc. Et que j'avais fait le nécessaire auprès de la cagnotte des proches. C'est pas une cagnotte du coin qu'on crée comme ça et puis où on met son RIB et voilà, c'est contrôlé. Et il demande à quoi l'argent va servir. Il faut donner des preuves aussi. Tout est hyper contrôlé. Alors j'ai tout eu, hein. Je suis parti aux Bahamas pour aller passer des vacances dans un coin paradisiaque, sur un bateau. Enfin, j'ai eu des choses, mais vraiment incroyables. Et puis il y a eu des vidéos. Des parodies même, des moqueries avec des tuyaux dans le nez pour me représenter, pour faire semblant, voilà, par rapport à l'oxygène, etc. Il y a eu du harcèlement par téléphone. On m'appelait en numéro masqué. Il y a eu des menaces sur ma personne. Il y a eu des menaces sur ma conjointe. Il y a eu des menaces aussi sur ma fille. Ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à ma communauté, j'avais réussi à rassembler la totalité de la somme de 35 000 euros. J'avais cette somme pour l'opération. Suite à tout ça, j'ai joint la cagnotte des proches et je leur ai demandé qu'ils remboursent le moindre centime des personnes qui avaient donné. Des 35 000 euros qui sont rentrés, il y a 35 000 euros qui sont revenus à chaque donateur. Donc je reviens de Thaïlande, je reviens avec des documents et je reviens avec des preuves que c'est possible surtout. Donc j'ai une réunion pluridisciplinaire avec tous mes professionnels de santé, neurologues, cardiologues, etc. Et là je leur montre les documents. Je leur montre que si l'opération est possible, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me la faire? Un mois après, je reçois un courrier du CHU d'Angers qui, suite au courrier de leur confrère, souhaitait me voir pour passer des examens dans le but d'envisager quelque chose. J'arrive en hospitalisation au CHU d'Angers, on passe les examens traditionnels, ponction lombaire, etc. Et quand ils m'ont fait le test dans la moelle épinière, j'ai vécu juste 24 heures de libération incroyable. Pendant ces 24 heures où il m'avait injecté le produit, j'en ai pleuré à la cafétéria du CHU d'Angers. Je cherchais la douleur. C'était incroyable. C'est-à-dire que l'émotion que j'ai eue, c'était la peur. C'était la peur parce que je me dis, c'est pas possible, ça va durer 2 minutes là et puis ça va reprendre. Non. Et pendant 24 heures, j'en revenais pas. C'est que j'étais bien. J'étais serein, là, je lui dis, mais opérez-moi, c'est ce que vous m'avez mis là en 24 heures, je le veux tout le temps, c'est le même produit, c'est possible. Alors, ce que j'ai fait, et c'est peut-être l'un de mes plus grands regrets, C'est qu'encore une fois, ce besoin sans arrêt de devoir se justifier tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour satisfaire les haters, pour pouvoir leur prouver que tout était vrai. J'ai filmé sans autorisation mon dernier rendez-vous avec mon neurochirurgien, mon anesthésiste. Moi, du coup, j'orientais les questions parce que c'était pourquoi pas la Thaïlande, pourquoi d'un coup en France, tout ça. Donc, ils ont répondu à ces questions. Le truc, c'est que c'était en direct, que les haters ont enregistré la totalité de la conversation que j'ai eue avec mes professionnels de santé et que ben, le dernier point d'attaque, c'était de les prévenir que j'avais fait une vidéo sans leur avis et forcément, ils n'étaient pas au courant. J'ai été convoqué par le CHU d'Angers, par l'équipe de communication qui m'ont dit que là, clairement, ils remettaient en cause l'opération, que c'était pas possible pour eux. J'ai eu l'entretien avec la directrice du CHU d'Angers, avec le neurochirurgien où je lui ai présenté mes excuses, l'anesthésiste. Je vais vous dire tout ce qui s'est passé. On m'a fait passer pour un menteur, un escroc. Je me suis senti obligé de me justifier auprès de tout le monde. Et on a convenu d'un accord avec la directrice. C'était que, tout simplement, je sors des réseaux. Je ne communique plus sur quoi que ce soit. Et c'est ce qui s'est passé. Finalement, l'opération a marché. Et ces 24 heures de bonheur que j'ai eues, ben, j'ai pu les avoir en continu. Alors, ça n'a pas été tout rose tout de suite, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours cette incertitude où on n'a plus aucune défense immunitaire et que le risque infectieux est très important. Et puis, je ne peux pas me dire que ça y est, j'ai réussi, je me suis fait opérer, je vais mener la vie que je dois mener. Parce que bah, j'ai une maladie qui est neurodégénérative, donc qui va dégénérer dans le temps. Peut-être que demain, je serai plus capable de parler, demain je serai plus capable de prendre mes décisions par moi-même. Et si je reste dans cette liste d'euthanasie, c'est dans le sens où aujourd'hui je suis encore apte à prendre cette décision, mais je ne sais pas si demain je le serai encore. Et je sais très bien, et ça c'est une certitude, c'est que je refuse d'être un fardeau. Je sais que la maladie prendra au final le dessus à un moment donné de ma vie, mais à ce moment où elle aura l'impression d'être la plus forte, là je pourrai l'éteindre définitivement. La continuité de mon combat, c'est de me dire que tu mourras pas, c'est moi qui vais t'avoir. Et je l'aurai, peu importe quand elle se présentera, je suis prêt.
C'était un TikToker vraiment mortel, un reportage de Maxime Piono réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Giovanni Di Franco et à Franck De Brito. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.